qu'il l'avait été, mais bon, Netanyahou n'a pas été capable de constituer un gouvernement, donc il retourne en élection, et là, il commence à faire des promesses de fou.
Oui, puis il les multiplie, et en fait, ça vient mettre en exergue, ça vient mettre de l'avant toutes les contradictions même de l'existence de l'État d'Israël. Netanyahou, bon, on le sait, Israël a choisi le mode de scrutin proportionnel à 100%.
Ouais.
Ça a donné quoi? Ça a donné qu'il y a une multitude de petits partis qui sont apparus.
Partis, dans certains cas, carrément extrémistes.
Très extrémistes, même dans le contexte religieux en particulier. Et ce faisant, ben, on a atteint un point où il y a les grands partis traditionnels, le Labour, le Likoud, puis là, il y en a un nouveau qui s'appelle le Bleu et Blanc, qui vient en bonne partie succéder au Parti travailliste. Et ils sont plus capables de former de gouvernement parce que ça demande tellement... Si tu veux avoir le support, l'appui des trois députés de ce petit parti miniature et extrémiste qui est là...
T'es obligé de promettre...
Une concession ici, une concession là.
Ouais.
Par exemple, quand tu es à Jérusalem maintenant, là, à Jérusalem même, le jour du sabbat, il n'y a rien qui bouge. Quand tu es à Tel Aviv, qui est une ville qui n'est pas du tout du même type... Là, il n'y a pas bien
une ville libérale, une ville comme chez nous, dans le fond.
Alors là, ce qu'il a fait, ce cher monsieur Netanyahou, c'est qu'il fait appel à tout ce qui est le mouvement extrémiste religieux sioniste là-bas, et il leur promet maintenant que s'il est réélu, il va annexer, j'entends bien, annexer, donc inclure dans son pays une bonne partie des territoires occupés, qu'on appelle la Cisjordanie, particulièrement la partie de tout ce qui longe le Jourdain, donc le long de la frontière avec la Jordanie.
Qui est un territoire palestinien.
Qui est un territoire palestinien, clairement.
Et qui est la terre sur laquelle serait fondée l'éventuelle Palestine indépendante, le pays de la Palestine.
Oui, ça, c'était le rêve, effectivement. Hein? C'était le rêve, pour mais certains, le rêve, il s'en va en fumée.
Ben, c'est ça, mais le problème, c'est que la raison pour laquelle tu nous parles de ça, Luc, c'est que ça peut mettre le feu aux poudres.
Oh mon Dieu, oui. Je te dis que celle-là, je la trouve un peu ouf. D'abord, ils ont annexé Jérusalem après la guerre des six jours. Puis là, tout le monde a fini par sans officiellement l'accepter, dire, ben, tu sais, Jérusalem, Israël, bon, d'accord. Mais les territoires occupés, ils ont été occupés à partir de 67 et aussi à partir de la guerre du Yom Kippour en 1973. Ils ne les ont jamais annexés, d'abord parce qu'ils n'ont pas le droit.
Non, en vertu du droit international, voilà.
Absolument
exactement.
Pas. Et c'est une occupation militaire.
Oui.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des colonies juives. Et je les ai vus de mes yeux l'été
passé. Moi aussi,
là.
Ils
arrivent, là, puis ils disent, bon, ce terrain-là, ici, je le confisque.
Au sommet d'une montagne, en général.
Puis là, on confisque le terrain. Puis tout est organisé, les bulldozers arrivent, ils construisent des édifices à appartements ultramodernes avec les écoles. Et qui va s'installer là? Qui sont les colons juifs? Généralement, l'extrême droite religieuse. Enfin, je vais faire attention comme toi en disant extrême droite. La droite radicale religieuse.
Voilà.
Et ils vont s'installer là, puis ils jouissent de la protection de l'armée. Et ils sont eux-mêmes très souvent...
Armés. Ben oui.
Et là, il y en a 450 000 de ces colons juifs-là qui sont installés en territoire occupé.
Et plus, évidemment, leur nombre grandit, moins ça devient possible d'en venir à un accord de paix avec les Palestiniens, parce qu'ils vont refuser de se retirer, sauf si on les oblige de force.
Absolument, mais c'est chez eux aussi. Ça fait parfois 2000 ans que les mêmes familles sont installées sur les mêmes terres. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Et là, il a fait un coup qui ressemble à ce qu'Ariel Sharon avait fait quand il voyait que ses prévisions électorales n'allaient pas comme prévu. Il avait été monté sur le fameux l'esplanade des mosquées.
Ouais, puis
il a foutu la merde simplement pour montrer aux Israéliens, moi, j'ai pas peur d'aller sur l'esplanade des mosquées.
Ça avait été le début de la première ou de la deuxième intifada?
La deuxième intifada. Alors là, lui, ce qu'il a fait, c'est l'équivalent, il est allé dans Hébron. Tu sais que les Juifs considèrent Hébron comme la deuxième ville sainte après Jérusalem.
Parce qu'elle est liée à Abraham, je pense, Hébron,
je pense que c'est le cas. Mais il y a 200 000 Palestiniens qui vivent là, puis il y a 2500 Juifs. Mais les Israéliens ont décidé qu'eux autres, ils contrôlent cette ville-là parce que c'est une ville sainte.
Ils vivent en camp fortifié, là.
Point à la ligne. Alors, on s'en va vers des élections qui... Si elle donne ces résultats-là, il a fait pire que ça en plus, je tenais à le dire. Il a dit aux gens qui s'apprêtaient à voter pour le parti bleu et blanc, qui est beaucoup plus ouvert...
Modéré.
Il leur a dit, prenez garde, si vous élisez ce parti-là, ils sont même prêts à donner des jobs de ministre à des Arabes. Ben oui, mais c'est quoi
ça,
le problème?
Ça, c'est du racisme.
Mais non, mais je le
là,
sais.
Là, c'est du racisme, là.
Mais moi, ben moi quand j'étais là-bas, ben hein? Non, je vais terminer.
Les Arabes, il y a des Arabes qui sont citoyens israéliens, là.
Ben oui, il y a 28 % de la population israélienne qui ce sont des citoyens israéliens. Alors, j'avais une conversation avec un juif originaire de Montréal qui vit maintenant en Israël. Puis il me disait, moi, là, je veux qu'on donne les mêmes droits à tout le monde, tous les citoyens, peu importe leur religion, tout ça. Mais j'ai dit, est-ce que ça inclut le droit de devenir ministre ou premier ministre? Ben, il dit, ben non. Ben non, mais j'ai dit, comment c'est. Ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit. C'est quoi le droit? Tu le limites où le droit?
Ouais, mais là, c'était. Quand tu as commencé en parlant que tout ça nous ramenait à l'essence même de l'existence d'Israël.
Absolument.
Bon, ben c'est ça. Est-ce que pour être israélien, tu dois être juif?
Et voilà, c'est la question qui est posée. Hein? Et comme m'a dit quelqu'un, et moi, tu comprends, je pourrais dire l'envers de la médaille aussi, il y a deux côtés de médaille, mais comme m'a dit quelqu'un, pourquoi vous vous demandez qu'Israël veut pas la paix? Ils veulent pas la paix, ils veulent le sol, ils veulent la terre, ils veulent le pays, ils veulent l'espace, c'est ça qu'ils veulent.
OK. Écoute, on va suivre ces élections-là. Encore une fois, ça a l'air bien loin, mais finalement, c'est proche, parce que tout ce qui
peut,
dans un monde incertain, le monde incertain dans lequel on vit, là, chaque menace à la stabilité nous concerne.
À demain, Bernard.
À demain, Luc.